Laudetur Jesus Christus.
Une nouvelle naissance est non seulement possible, mais nécessaire. Pas d'audience générale en physique ce mercredi pour le pape François, mais un texte partagé depuis l'hôpital. Nous y revenons juste après les titres. Mobilisation de la société israélienne contre la politique de Benjamin Netanyahou. Nous l'entendrons, une partie de la population entend se mobiliser pour sauver la démocratie. Dans ce journal, nous irons également en Turquie. Le principal leader de l'opposition, le maire d'Istanbul, a été interpellé par la police ce matin. Et puis une rencontre coup de théâtre au Qatar, celle entre le président congolais et son homologue rwandais.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. La rencontre entre Jésus et Nicodème au cœur de la catéchèse du pape François. Dans son texte préparé pour l'audience générale de son mercredi, annulée à cause de son hospitalisation depuis le 14 février à l'hôpital Gemelli à Rome, le Saint-Père invite à laisser Jésus nous rencontrer, car en lui, nous trouvons l'espérance pour affronter les changements de notre vie et naître de nouveau, Myriam Sandouneau.
Oui Marine, le pape explique qu'il y a des rencontres qui éclairent la vie comme celle avec Jésus. Et Nicodème, dont parle l'évangile de Jean, en a fait l'expérience. Il a cherché le Christ, confiant qu'il pouvait éclairer les ténèbres de son cœur. Jésus lui a parlé d'une nouvelle naissance, non seulement possible, mais nécessaire à certains moments de notre parcours. Pour le Saint-Père, si nous permettons à l'Esprit-Saint d'engendrer une vie nouvelle en nous, nous naîtrons de nouveau et redécouvrirons cette vie qui, peut-être, était en train de s'éteindre en nous. Le pape exhorte à accepter le changement. Certes, les changements nous font parfois peur, mais rassure l'évêque de Rome, l'esprit nous encourage à affronter ces peurs. Ce n'est qu'en regardant en face ce qui nous fait peur que nous pouvons commencer à être libérés, estime le pape. Et si nous nous enfermons dans notre rigidité, nos habitudes ou notre mode de pensée, nous risquons le pire, alerte-t-il, soulignant ensuite que la vie réside dans la capacité à changer pour trouver une nouvelle façon d'aimer.
Merci Myriam. Myriam Sandouneau. Et on reste au Vatican. Le message du pape pour la Journée mondiale des vocations, qui aura lieu le 11 mai prochain, est révélé aujourd'hui. François affirme que le monde a besoin de jeunes pèlerins de l'espérance, courageux dans la consécration de leur vie au Christ. Plus de précisions sur notre site internet, vous connaissez l'adresse www.vaticannews.va. Alors que les bombardements massifs israéliens ont repris sur la bande de Gaza, la société israélienne se mobilise de nouveau. Après Tel Aviv hier soir, des milliers de manifestants sont réunis ce mercredi à Jérusalem pour dénoncer la politique du Premier ministre Benjamin Netanyahou, l'accusant de poursuivre la guerre contre le Hamas au détriment de la vie des otages encore détenus dans la bande de Gaza. Un ras-le-bol où les mots d'ordre sont aussi ceux de sauver la démocratie israélienne, Olivier Bonnel.
Oui Marine, des milliers de personnes sont actuellement rassemblées aux abords de la Knesset, le Parlement israélien, à l'appel de groupes d'opposition au gouvernement Netanyahou. Ils ont été rejoints par des familles d'otages de Gaza. Si cela continue comme ça, nous n'aurons plus un pays démocratique, mais une dictature, expliquait une manifestante citée par l'AFP. Car c'est bien une nouvelle fuite en avant du gouvernement israélien que ces manifestants dénoncent et qui se caractérise par la guerre de nouveau lancée contre la bande de Gaza depuis hier matin. Si le Premier ministre israélien a expliqué que la pression militaire contre le Hamas était indispensable pour libérer les derniers otages, l'argument est très loin de convaincre. Un signe inquiète les manifestants. Le retour la nuit dernière dans le cabinet gouvernemental d'Itamar Ben-Gvir, ministre d'extrême droite de la Sécurité nationale et partisan d'une occupation de Gaza. Il avait claqué la porte du gouvernement le 19 janvier lors de l'entrée en vigueur de la trêve. Dans les cortèges, de nombreux manifestants s'inquiètent de la dérive autoritaire d'un gouvernement israélien et appellent non seulement à libérer les otages mais à sauver la démocratie. Des appels à la désobéissance civile sont également lancés par plusieurs plateformes, notamment par des officiers. Reste à voir, Marine, si cette mobilisation prendra de l'ampleur ou retombera, on le saura dans les prochaines heures.
Olivier Bonnel, après la reprise de la guerre en Terre Sainte, les réactions sont nombreuses. Berlin parle ce midi d'espoir de paix brisée. Paris, de son côté, estime que la reprise des frappes israéliennes constitue un retour en arrière dramatique. La Caritas, elle, dénonce la grave violation du droit international humanitaire.
commises par Israël. Après la conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine à propos d'un éventuel cessez-le-feu très partiel en Ukraine, Volodymyr Zelensky demande aux Occidentaux de ne faire aucune concession à Moscou, sachant que le Kremlin demande la fin de l'aide militaire et financière occidentale avant tout cessez-le-feu global en Ukraine. Le président ukrainien qui devrait s'entretenir demain, cette fois avec son homologue américain. Et en tout cas, ce mercredi, les frappes russes en Ukraine continuent. Un hôpital a notamment été visé dans le sud du pays. C'est un séisme politique en Turquie. Ce matin à l'aube, la police a arrêté à son domicile le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Le grand rival du président Erdogan a été placé en garde à vue en même temps qu'une centaine de personnes. Ekrem İmamoğlu avait récemment déclaré sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Elle est prévue en 2028, une candidature qui doit être officialisée dimanche. À Ankara, les précisions d'Alan Glower.
Selon le parquet d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu est en garde à vue dans le cadre de deux enquêtes. L'une concerne de présumés crimes financiers, irrégularités dans des appels d'offres, fraude, corruption, extorsion. Le maire de la plus grande ville turque est accusé d'être le leader d'une organisation criminelle à des fins lucratives. L'autre enquête, dont les conséquences pourraient être encore plus lourdes, est en lien avec le terrorisme. Le principal rival du président Erdogan est accusé d'avoir aidé le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Conséquences plus lourdes car ces accusations de terrorisme peuvent être utilisés par les autorités pour destituer le maire d'Istanbul et nommer à sa place un administrateur, comme il l'a déjà fait dans un grand nombre de villes gérées pour la plupart par le parti pro-kurde légal. Dans sa première réaction filmée alors que la police venait d'entrer chez lui, Ekrem İmamoğlu promet, je cite, de ne pas abandonner et de continuer à lutter contre cette personne, autrement dit contre le président Erdogan. Le CHP parti d'Ekrem İmamoğlu dénonce un coup d'État. La préfecture d'Istanbul a interdit toutes les manifestations dans la ville pendant 4 jours. À Ankara, un endroit pour Radio Vatican.
Nouveau naufrage en Méditerranée cette nuit au large de l'île italienne de Lampedusa. 6 personnes sont mortes, 40 disparues, 10 ont été secourues et sont maintenant à Lampedusa en Italie. Tout avait embarqué à bord d'un bateau pneumatique au départ de la Tunisie. L'entrevue était pour le moins inattendue hier soir entre le président congolais et le rwandais Paul Kagame autour de l'émir du Qatar, Tamim Ben Ahmad Al Thani. Un nouveau rétro-pédalage pour Félix Tshisekedi qui assurait qu'au grand jamais, sur la terre des hommes, il n'allait se revoir avec son homologue rwandais. C'est surtout une lueur d'espoir après le démarrage raté hier des négociations entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Des négociations qui devaient avoir lieu à Luanda, en Angola. Les précisions de notre correspondant à Kinshasa, Pascal Moulégois.
Cette réunion, la première en plus d'un an, a été révélée par une photo publiée par le ministère qatari des Affaires étrangères. Le communiqué qui a suivi l'entrevue de moins d'une heure a indiqué que les deux dirigeants africains avaient décidé de poursuivre les discussions pour établir les bases d'une paix durable. Jusqu'à présent, l'Angola était perçue comme le seul médiateur entre le Rwanda et la RDC, deux pays en état de guerre. Cependant, la médiation angolaise vacille depuis mardi avec l'échec du début des négociations directes entre Kinshasa et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Les rebelles se sont rétractés en raison des sanctions de l'Union européenne contre des responsables du mouvement et des autorités rwandaises. L'émir qatari avait déjà tenté d'organiser une rencontre similaire en janvier 2023, mais celle-ci avait été annulée à la dernière minute. Cette fois, il a les mérites d'avoir réussi à réunir les deux ex-partenaires devenus plus qu'adversaires, voire même ennemis, et à obtenir un cessez-le-feu. Les communiqués précisent qu'il est immédiat et inconditionnel, même si des combats ont été signalés ce matin dans les territoires de Walikale, où les rebelles tentent d'étendre leur contrôle, en particulier vers la troisième importante mine d'étain au monde en termes de production. Pascal Moulégois, Kinshasa. RFI pour Radio Vatican.
Après le Niger et le Burkina Faso, c'est au tour du Mali de quitter l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Ces trois pays étaient parmi les premiers membres de l'OIF, fondée en 1970 à Niamey, dont l'objectif était de rapprocher les peuples via une langue commune, mais aussi de servir au développement. Mais selon l'AES, l'Alliance des États du Sahel, l'Organisation internationale de la francophonie est un instrument politique téléguidé qui méprise la souveraineté de ces pays. Et à noter que demain a lieu la journée internationale de la francophonie. Et enfin, pour finir, l'état d'urgence déclaré dans l'état de Rivers sur la côte du Nigeria, une région riche en pétrole, déchirée par un conflit politique entre l'actuel gouverneur et son prédécesseur. Le président nigérian a placé un administrateur chargé de diriger les affaires de l'état. Retour de l'information directe du Vatican tout à l'heure à 18h. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.